Nous reprenons, si vous voulez bien, et c'est la dernière séance du séminaire. La semaine prochaine, je fais cours et je déborderai peut-être, si j'ai trop à dire, au-delà d'une heure. Mais en tout cas, nous n'avons plus d'invités la semaine prochaine. Et nous allons terminer ce séminaire en beauté avec Dominique Fernandez qui a bien voulu venir jusqu'au Collège de France. Alors, je ne vais pas vous le présenter, il est l'auteur de nombreux ouvrages. Il est universitaire, d'abord, il est critique, il est romancier et il est à l'Académie française depuis 3 ans. Beaucoup de ses romans sont très connus, en particulier Porporino ou Les Mystères de Naples, qui a eu le prix Médicis en 1974, et le livre qui se fonde sur la vie de Pasolini, Dans la main de l'ange, qui a obtenu le prix Goncourt en 1982. Il y a aussi toute une veine de son écriture qui est le récit de voyage, et il y en a beaucoup, mais bien sûr notamment en Italie, puisque une grande partie de son œuvre est liée à l'Italie et qu'on peut difficilement aller à Naples sans utiliser l'un de ses livres pour se promener dans les rues. La raison pour laquelle j'avais eu envie de le faire venir, c'est le livre qu'il a publié l'an dernier. On a déjà eu une fois l'occasion de se retrouver à une table ronde à la Bibliothèque nationale et on en avait un petit peu parlé l'an dernier. J'avais envie de prolonger cet échange et cette conversation. Ce livre, c'est à mon sens un très beau et très grand et très important livre que j'ai lu juste quand il a été publié avec beaucoup de passion, intitulé « Ramon », et qui est donc un ouvrage sur son père, une enquête sur son père, dont je ne savais, à vrai dire, moi-même pas beaucoup. Je l'ai lu, notamment à propos de Proust, puisqu'il est l'un de ceux qui ont le mieux écrit sur Proust très tôt en France. Et voilà donc un livre d'enquête sur le père. Je crois que c'est le titre qu'on avait retenu pour cet échange. Enquête sur le père. Et bien sûr, il y a eu un autre livre depuis, un livre qui vient de paraître sur Tolstoï. Mais c'est véritablement pour parler de ce livre-ci, dans un séminaire qui a eu d'un bout à l'autre comme thème « Écrire la vie » et pour lequel on a déjà eu un certain nombre d'écrivains, que c'est pour parler de ce livre que j'avais envie de vous faire venir et de terminer ce séminaire. Alors, je ne sais pas bien comment on va faire. Vous pouvez commencer par dire quelques mots, puis on dialoguera.
Bon, volontiers, merci. Bonjour, bonsoir. Oui, alors, j'ai écrit ce livre qui est assez gros, 800 pages, et assez tard. On m'a souvent demandé pourquoi vous avez attendu si tard pour écrire ce livre, puisque mon père est mort en 1944, le 12 août 1944, quand j'avais 15 ans. Et j'ai répondu que je n'aurais pas pu l'écrire avant. Il fallait vraiment 60 ans pour aborder cette matière quand même très brûlante pour moi. Mon père, j'ai très peu connu, puisque mes parents étaient divorcés et que je vivais avec ma mère et que je voyais mon père le dimanche pendant l'occupation, et c'était une période déjà très conflictuelle, très difficile. Et puis donc, il est mort. Et c'est ce qui m'a toujours troublé, c'est qu'il avait pour moi une double figure. C'était à la fois un grand intellectuel, un des plus grands d'entre les deux guerres, critique de l'ANRF, critique attitré. Il a fait des livres remarquables sur Molière, sur Gide, sur Balzac, sur Proust, dont il a été l'ami assez proche, et qui a connu tout le monde, enfin qui a participé à toute cette vie de la, de la, de l'entre-deux-guerres, qui était très brillante en France. Et puis en même temps, il s'est mis dans la politique, et il était jeune de gauche, socialiste, presque communiste en 1934, au moment du 6 février, et puis en 1937, il bascule dans le fascisme, dans le doriotisme. Bon, là, je comprends encore, parce que c'était un parti c'était pas condamnable, c'était, bon, c'était une droite, mais une droite nationaliste, et Doriot était un ancien ouvrier communiste, donc c'était une espèce de garantie de sérieux. Mais ce qui est grave, c'est qu'en 1940, il a suivi Doriot dans la collaboration, il est devenu un collabo, ce qu'on appelle un collabo, et il a prêté son nom, qui était très, très célèbre à l'époque, à la politique de la collaboration. Enfin. Et il n'a rien fait. Alors j'écris ce livre en partie, je voulais savoir ce qu'il avait fait vraiment. Parce que j'avais peur qu'il eût commis quelque acte vraiment répréhensible. Or, je n'ai rien trouvé, absolument rien. Et j'avais peur surtout qu'il eût participé à la dénonciation des Juifs, évidemment. C'est quand même le point le plus sensible. Or, j'ai vu qu'il n'avait jamais écrit dans Je suis partout, qui était l'organe de Brasillach, qui n'aimait pas Brasillach, qui n'était pas antisémite, bien qu'il ait participé à un ou deux meetings antisémites. C'est la chose la plus grave qu'il ait faite, quand même. Mais enfin, il était en Allemagne, il a fait le voyage des intellectuels en octobre 1941 à Weimar, invité par le docteur Goebbels, dont il a fait l'hommage après, dont il a fait l'éloge après. Enfin, c'est quand même assez grave, à mon sens, pour un intellectuel qui a un certain prestige, de mettre ce prestige au service de cette cause. Donc, j'avais cette double figure du père, à la fois grand critique, grand intellectuel, très intelligent, très brillant, et puis cette fin catastrophique, et dont il avait conscience, d'ailleurs. Et je l'ai appris depuis, d'ailleurs, parce que c'est très curieux, mais ce livre a déclenché une série de correspondants, de gens qui m'écrivent, que je ne connaissais pas, et qui m'apportent des documents nouveaux. Et le livre de poche qui vient de sortir est déjà très augmenté, et je pourrais en faire encore un autre, encore plus augmenté, parce que il y a des gens très curieux, qui n'ont rien à voir avec la littérature, mais qui sont passionnés par le mystère, par les rapports du père et fils. C'est ça qui a intéressé les gens, même ceux qui ne connaissaient pas du tout mon père comme critique, il n'avait jamais lu, puisque son œuvre a disparu, bien entendu, à la Libération. Il a été épuré, on n'a plus lu pendant longtemps, on n'a plus réédité, maintenant on commence à le rééditer. Et alors ces gens m'apportent des revues, par exemple, auxquelles mon père a collaboré, des revues dont je ne savais même pas l'existence. Donc, enfin, mon souci, c'était ça, d'essayer de comprendre cette figure qui était coupée en deux, cassée en deux. Je ne comprenais pas pourquoi un homme comme ça avait commis ce qu'il a commis. En plus, il était anglophile. Il faisait des conférences à Cambridge, à Oxford. Il était tout à fait anglophile. L'Allemagne ne lui disait rien. Il n'a jamais rien écrit sur un auteur allemand. Je veux dire, ce n'est pas du tout son univers. Et alors, tout à coup, basculer dans le... Il n'était pas nazi, parce que c'était... Mais enfin, il était quand même, objectivement, la collaboration, c'était être pro-nazi. Et Doriot, en particulier, s'est révélé être une crapule, parce que là, on sait qu'il a été... Il était payé par Mussolini, par Hitler, et c'était vraiment un type assez ignoble. Et mon père a été son espèce de ministre de la culture pendant toute l'occupation. C'est ça qui est ahurissant. Alors, c'est une brute. On a des films de lui, de Doriot, de colosse, bouffi, parce qu'il est dans les très bons restaurants. C'était quelqu'un d'assez atroce. Enfin, et que mon père ne soit jamais décroché de lui... est assez, enfin, pour moi, sidérant. C'est-à-dire, ça reste un mystère, et au bout de ces 800 pages, je ne comprends toujours pas pourquoi il a fait ça.
Au bout des 800 pages, la question n'est pas résolue.
Non. Non, parce que je comprends qu'il était doriotiste en 1937. Vous savez, la France était décomposée, les ministères changeaient tous les mois, Et la France est divisée en deux, il y avait les communistes et puis les fascistes. Mais c'était avant-guerre, il n'y avait pas... Et Doriot n'était pas du tout antisémite. Le bras droit s'appelait Abramovitch, le bras droit de Doriot. Et dans ses discours, il n'était pas du tout antisémite. Et il a fait des petits livres que j'ai retrouvés, avant-guerre, où il était à la fois contre Moscou et contre Hitler. Il disait ni Berlin ni Moscou. Il faut une France nationaliste. Donc, on peut admettre, c'est plausible, enfin, je veux dire, c'est pas condamnable d'avoir été doriotiste entre 37 et 40. Seulement en 40, alors Doriot devient vraiment un collaborateur véreux, enfin, ignoble. Et là, mon père n'avait aucune, ne pouvait très bien rester neutre, enfin, continuer à faire de la critique littéraire uniquement, ce qu'il a fait d'ailleurs. Il continuait à écrire dans la NRF uniquement les articles littéraires jusqu'à la fin de la revue en 43. Mais en même temps, il écrivait dans la Gerbe et dans la Liberté, l'organe de Doriot. Pas des articles politiques d'ailleurs, c'est pas. Mais c'était comme sous la caution des Allemands, enfin, sous le contrôle, sous la censure des Allemands. Et puis, il a participé à des meetings. Il y en a un en particulier à côté du sinistre Montandon, qui était un professeur de sociologue et qui prêchait l'extermination des Juifs totale. Il disait que c'est la seule solution. Il était assis là. Je crois qu'il n'a pas parlé ce jour-là. Enfin, je n'ai pas retrouvé le discours, mais il était quand même assis là, avec un uniforme, parce qu'ils avaient un uniforme, les PPF. Une espèce d'un béret basque. Tout ça paraît très puéril aujourd'hui, mais c'était quand même tragique vu la situation, vu que l'Allemand était là, à Paris.
Oui, il y a une série de questions que j'aimerais bien vous poser à propos de ce livre. Peut-être la première, c'est pourquoi à ce moment-là, parce que pourquoi est-ce à ce moment-là que vous avez eu envie ou besoin de faire ce livre? Parce que la question, vous l'avez dit, elle vous a toujours été présente.
Oui, toujours, et je crois que tout... Enfin, pour en parler, mais tous mes romans, au fond, parlent de la même histoire. Bon, oui. Mais il y a deux occasions vraiment occasionnelles. C'est que là, en août 1944, le journal auquel je collabore, le Nouvel Observateur, m'a demandé si j'avais des souvenirs de la libération de Paris, oui. 25 août 1944, 60 ans après. Et j'ai dit oui, mon père venait de mourir. J'ai eu 15 ans le jour de la libération de Paris. C'est pas mal quand même. Et c'est trois semaines après la mort de mon père, donc j'étais quand même assez tourneboulé. Et. Moi, j'étais gaulliste, enfin, ma mère était gaulliste, le milieu où je vivais était gaulliste, ma mère était très amie de Georges Bidault, qui était le chef de la résistance intérieure, donc j'avais pris parti, vraiment, pour De Gaulle. Mais c'était quand même le père, et même si je désapprouvais sa politique, déjà, à cette époque, je la condamnais, c'était quand même le père, donc on peut pas le rejeter comme ça. Et donc, j'ai écrit l'article, je ne sais plus quoi, mais ça m'a réveillé des souvenirs, et puis j'ai regardé les photos, et j'ai trouvé la photo de mon père sur son lit de mort. Alors, mon père était devenu assez gros, il avait beaucoup, lui qui était si beau avant, qui avait lancé le tango en France, il était devenu massif, bouffi, et sur son lit de mort, il a retrouvé sa beauté de jeunesse, très fin, émacié, enfin, et alors, ça m'a, encore la double image a joué d'une façon très forte, vous voyez. Donc c'est l'occasion. Puis après, j'ai écrit le livre sans effort, je dirais, simplement, ça s'est déroulé. Enfin, j'ai consulté les archives que j'avais, mais...
Il y a quand même une grosse enquête.
Oui, je ne suis pas historien, malheureusement. C'est pour ça qu'on m'apporte beaucoup de choses que j'aurais pu trouver tout seul. Mais Donc moi, j'ai ces archives que j'avais, des lettres, des carnets de ma mère, des choses, des traditions orales aussi. Mais je n'ai pas fait vraiment de recherche.
Vous l'avez fait intégralement avec les archives personnelles.
Ah, tout à fait. Ouais. Enfin, j'ai relu les livres de mon père, tous les articles, et puis il y a beaucoup, beaucoup de lettres, à lui surtout, parce que les siennes, je ne les ai pas, mais... Et puis les carnets de ma mère, qui étaient chaque jour son... tous les jours pendant 60 ans, enfin, pendant son mariage, donc j'ai su une chronologie très, très précise, mais je n'ai pas fait de recherche, je n'ai pas interrogé, surtout qu'on a des moyens aujourd'hui très...
Vous n'êtes pas allé à la bibliothèque?
Non. J'ai une allergie pour une bibliothèque, je ne sais pas pourquoi, mais c'est... Et surtout, je sais pas comment faire. Enfin, c'est pour ça que maintenant, les gens apportent des choses, ils tapent sur leur Internet, ils trouvent des choses épatantes, comme ça. Enfin, y a des...
Alors, vous disiez il y a un instant, mais bon, vous avez écrit ce livre maintenant, mais au fond, vous l'avez toujours écrit.
C'était... Toujours.
En quel sens,
J'ai découvert après aussi, c'est très curieux, parce que j'ai écrit donc beaucoup de romans, et il y a un héros type... Depuis, qui est un héros double. C'est-à-dire, je prends pour héros des gens qui ont une notoriété ou une célébrité toujours dans l'ordre intellectuel ou artistique et dont la vie finit dans un désastre. Mm-hmm. Tchaïkovski, qui est une gloire musicale, et qui fait... Il y a un scandale de mœurs, et le tsar ordonne qu'il ordonne de suicider par le biais d'un tribunal d'honneur. Ou Caravage, qui fait une grande carrière, et puis qui se précipite dans la violence, et lui-même est assassiné. Ou Pasolini aussi, même destin. C'est-à-dire des gens célèbres, des gens qui ont une autre position sociale même, enfin qui compte dans la société et qui provoque quelque chose qui va les détruire. Et il y a aussi Winckelmann, qui était un archéologue allemand au XVIIIe siècle, qui, revenant d'aller voir Marie-Thérèse avec des médailles, est descendu à Trieste et a eu une aventure avec une espèce de type là qui l'a assassiné. Ou bien le dernier des Médicis, j'ai découvert que le dernier des Médicis, le dernier de la fameuse lignée des Médicis, début 18e, qui est mort en 1737, a pris à rebours toute la tradition Médicis. Les Médicis, c'était des mécènes, des gens comme ça, qui aimaient les arts, la beauté. Et lui, au contraire, il aimait tout ce qui est laid, tout ce qui est affreux. Et il a fini sa vie dans des orgies épouvantables, avec des bandes de voyous qui répandaient la terreur à Florence. Et il est mort d'une façon absolument ignoble, et au point que dans la chapelle des Médicis, vous allez à Florence, il y a la grande chapelle où il y a six tombeaux des grands ducs, et le septième qui était lui, mais il n'y est pas. On avait tellement honte de lui qu'on l'a mis là, au sous-sol, il y a une simple dalle. Et ça c'est ça qui m'a alerté. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'un grand duc n'est pas avec les autres grands ducs? Et parce qu'il s'est conduit comme une canaille. Enfin, comme... Et là aussi, donc, il y a ce mélange, ce contraste, ou au contraire, cette fusion, je ne sais pas, entre une position glorieuse et une attraction irrésistible de la honte et de la faute. Mm-hmm. Et après, ça, quand j'ai fini Ramon, je me suis dit, mais au fond, c'est tout des figures du père. Mm-hmm. C'est tout des gens qui... Des hommes qui avaient du prestige, de la force créatrice, et qui, sur qui ça a pesé en quelque sorte, et qui ont recherché alors l'échec, le fiasco, le désastre, la ruine, la chute. Je pense qu'il y a une cohésion là, très inconsciente, bien sûr, parce que c'est après que j'ai découvert. C'est pas du tout... Quand j'écrivais les romans, je ne pensais pas du tout à mon père. Mais c'est comme il y a un certain type de personnage qui m'intéresse, je conclus qu'il y a quand même, ça doit être ça le fil conducteur.
Oui. Et vous le décrivez comme, chez ces héros, deux vies successives, plutôt qu'un secret qui traverserait la première vie et qui...
Oui, enfin, je ne sais plus comment c'est fait, mais c'est très... Et à la rentrée, là, en septembre, la collection Bouquins va demander de publier certains de mes romans. Mm-hmm. Et donc, j'en ai mis quatre. J'ai mis le Winckelmann, qui s'appelle Signor Giovanni, puis le dernier de Médicis, Dans la main de l'ange et La course à l'abîme, Caravage. Et j'ai fait un titre sur le titre commun, qui est Prestige et infamie. Or, tous mes livres, depuis le début, je voulais les intituler ainsi. Mm-hmm. Mais je trouvais que c'était trop fort pour un livre. Ça fait trop... quand il y en a quatre qui a 1000 pages, je me dis, c'est l'occasion de dire vraiment ce qui m'importe. C'est ce mélange de prestige et d'infamie qui me fascine chez quelqu'un. Et je crois que c'est à cause de mon père, parce que c'est ça qui m'a troublé, mais en même temps fasciné. C'est fasciné de voir quelqu'un de très éminent qui se précipite dans le désastre. C'est ça qui est...
Vous avez toujours écrit le même livre.
Je crois que c'est connu. On dit que c'est écrit avec le même livre. Toujours le même livre. Mais ce qui est... Enfin, à mon crédit, je peux dire que j'étais inconscient, vraiment. Oui. C'est pas un programme, c'est après coup que j'ai découvert.
C'était pas une réserve. Oui, Proust dit que les grands écrivains ne font jamais qu'écrire le même livre.
Et là, j'ai fait une longue préface pour un bouquin de 40 pages où j'essaie justement de dire ça.
Et alors, en quoi ces autres livres précédent permettait celui-ci, le rendait possible? Parce qu'il y a aussi, vous avez aussi publié parmi vos romans, un roman qui raconte une histoire voisine.
Oui,
Vous avez d'abord fait une version fictive.
Oui, j'ai commencé en 92, 13, je ne sais plus, en deux volumes, qui était déjà l'histoire de mes parents, un petit peu, mais romancée. Et puis j'avais mis mon père, en Sicile, qui est mexicain en réalité, mais j'avais mis en Sicile, parce que je connais bien la Sicile et très peu le Mexique. Donc c'était quand même très, très romancé, très, très imagé. Mais je sais pas, j'étais pas content au fond, parce qu'il fallait. Je sentais obscurément qu'il fallait, il fallait faire vraiment le livre, mais je n'étais pas prêt encore.
La version fictive ne suffisait pas.
Ça ne suffisait pas, parce que la réalité est quand même très forte, là. Parce qu'il y avait non seulement le père, mais la mère aussi, qui était une personne tout à fait exceptionnelle. Ma mère, qui était alors le contraire de mon père. C'est pour ça, d'ailleurs, ça est une cause supplémentaire du désastre. C'est qu'elle était, elle, une puritaine, une femme de devoir, de discipline, et que lui était un baroque qui faisait des dettes, qui avait des maîtresses. Enfin, ils étaient opposés au maximum. Et je pense que ça a contribué d'ailleurs à sa dérive, disons.
Vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais quand vous écriviez ou quand vous faisiez les recherches sur ce que vous aviez comme archives pour ce livre, vous avez dû avoir peur d'un bout à l'autre de trouver.
C'est une des raisons pour lesquelles j'ai attendu si longtemps.
C'est aussi une des raisons.
Il fallait que je lise les carnets de ma mère, parce que ma mère, en bonne puritaine, janséniste, écrivait chaque jour ce qu'elle faisait dans la journée. Et toute sa vie, j'ai 60 petits carnets, bijoux. Elle ne disait pas grand-chose, mais elle résumait. D'abord, ça commençait par le temps qu'il faisait, c'est très curieux. L'obsession du temps, pluie, orage, soleil, comme ça. Et ensuite, dîner avec Malraux, déjeuner avec Céline. Donc ça m'a permis de faire une chronologie littéraire. Et j'ai vu que les années de leur mariage, c'est-à-dire de 26 à 36, enfin les 10 belles années, ils connaissaient enfin, tout le monde, tout le temps. Il y avait une société littéraire qu'il n'y a plus à Paris. Parce qu'on allait au bistrot, ça ne coûtait pas cher, je pense, j'imagine. Parce que, et on voyait, il y avait Bernanos, Mauriac, Céline, Malraux, Paulhan, Drieux, tous les jours, enfin, toutes les semaines, on allait chez les uns, chez les autres. Et ça, ma mère. Et c'est comme ça que j'ai pu établir, c'est un tout petit fait historique, mais que. Moi qui ne suis pas historien, mais que c'est chez mon père que Bernanos et Céline se sont rencontrés. Mmh. Et pas chez Daniel Alévi, comme on lit dans les biographies. Mmh. Parce que ma mère, ça, c'est. Elle faisait ça pour elle, c'est pas pour. Vraiment, elle écrit. On ne peut pas mettre en doute ce qu'elle écrit. C'était.
Est-ce que j'ai un faux souvenir ou est-ce que je l'ai lu il y a un an, qu'elle avait collaboré à la mise au point d'un volume de Proust?
Ah mais oui, absolument, parce que voilà, mon père était chargé d'établir, il a créé la collection des cahiers Proust, vous savez, le premier volume c'est les morceaux choisis, et Gallimard l'avait chargé d'établir l'édition des posthumes, c'est-à-dire beaucoup, c'est à partir de quoi? C'est la prisonnière oui.
À partir de la prisonnière.
La prisonnière, et puis le temps retrouvé. Et comme mon père se déchargeait sur sa femme, c'était ma pauvre mère qui, après ses profs de lycée, donc qui était harassée de travail, qui a établi l'édition, la première édition de Retrouver. Mm-hmm. Et ça, elle le dit.
Et ça, vous le saviez ou vous
Non, je ne savais pas.
Vous l'avez découvert dans ses petits carnets.
Non, c'est une licence carnet. Là, on ne peut pas mettre en doute, parce que c'est pour personne. Elle serait morte derrière la rue horreur, que personne, que même son fils, lut ses carnets. C'était vraiment une chose privée, c'est comme ça. Et oui, c'est elle qui a. C'est pas Robert Proust et Paulhan seulement.
Et vous ne le saviez pas?
Ah non, je ne savais pas du tout, parce que ma mère ne parlait de rien. De toute façon, elle ne m'a jamais parlé de mon père, jamais, jamais. Ils étaient séparés, c'était dramatique, c'était.
Vous aviez pensé, quand vous rédigiez ce livre, à ce que vous feriez si vous trouviez un document pénible?
Ah, mais je l'aurais dit.
Vous l'auriez.
J'aurais dit, et je dis qu'il était assis à cette tribune, c'est une chose la plus grave qu'il ait faite.
Oui.
Et je dis aussi que le jour de la rave du Veldiv, c'était en 42. Le service d'ordre, il y avait 400 jeunes PPF qui encadraient. Et mon père n'était pas là, bien sûr, mais enfin, il avait sa carte du parti dans la poche. Il n'a pas, ça, je le dis, c'est grave quand même. Il a pu quand même la démissionner. Enfin, il y avait comme. Non, tout ce que j'ai dit, je le dis. Tout ce qui est à charge de lui, je le dis. Non, non, mon but quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'est de savoir la vérité et de la dire.
De la dire, quelle qu'elle soit.
Ah, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Mais c'était l'angoisse de chaque fois que j'ouvrais un livre, j'ai lu tous les mémoires, aussi les lettres, mais j'ai rien trouvé, au contraire plutôt. Et je cite quand même cette chose qui est très belle, c'est d'Edmond Michelet, vous savez. Edmond Michelet était un grand résistant, le premier résistant de France, parce que dès le 17 juin, il appelait à la résistance à Brive, il mettait dans la boîte aux lettres avant l'appel de De Gaulle, et il a créé le réseau de résistants du Sud-Ouest. Il a été arrêté, il a passé 18 mois dans un camp, je ne sais plus, c'est pas Auschwitz, c'est pas un camp de travail, mais enfin, effrayant, il y avait le typhus. Donc, et De Gaulle l'a nommé ministre, il a été un grand ministre de la Justice, des Armées, je ne sais plus quoi. Et ma sœur, qui est ma sœur aînée, qui a 2 ans de plus, je reproduis derrière dans un livre de poche l'invitation. Elle l'a fait inviter, elle ne connaissait pas du tout. Elle était très jeune, ma sœur aussi, elle avait 20 ans, je ne sais pas. Et elle l'invite à un peu de colloque où il y avait Gabriel Marcel, il y avait Maritain, enfin, des catholiques plutôt, anti-gaullistes. Et il s'approche d'elle, il dit: Mademoiselle, vous êtes bien la fille de Raymond Fernandez? Elle lui dit: ben oui, mais elle ne savait pas du tout ce qu'elle allait lui dire. Mm-hmm. Elle lui dit: ben, vous savez, j'admirais profondément votre père, c'était notre phare, notre conscience critique, je lisais toutes ses chroniques, et il n'a pas dit un mot de politique. Il n'a même pas dit, comme c'est dommage qu'il soit fourvoyé comme ça. Mm-hmm. Donc, ça, c'est, pour moi, c'était une espèce de soulagement quand même, parce qu'un homme comme ça, qui était à la droiture même, qui était là, mm-hmm. qui était un vrai résistant, ce qu'il retenait de mon père, et ce que ses amis ont retenu, c'est quand même son action intellectuelle. Mm-hmm. Et à ses obsèques, le 5 août 1944, sont venus, il y avait toute la collaboration à Saint-Germain-des-Prés, Drieux et compagnie, et dans les bas-côtés cachés, il y avait Jean Paulhan et François Mauriac qui étaient recherchés par les Allemands et qui sont venus aussi par hommage.
Par fidélité,
et en passant par-dessus. Ils ont fait comme si... Après, Mauriac m'a reçu, enfin, j'ai reporté l'amitié sur moi qu'il avait eue sur mon père, et Paulhan aussi, d'ailleurs, et... Ils ne m'ont jamais parlé de la politique de mon père. Ils ont fait comme si ça ne comptait pas, comme si c'était un égarement, enfin, comme si ce n'était pas vraiment sa personnalité.
Dans ces angoisses que vous avez dû avoir depuis toute cette époque, c'est l'une d'entre elles doit être ce qui serait arrivé s'il n'était pas mort en août 1944.
Alors j'ai appris, c'est une chose que j'ai apprise, oui. C'est que après la libération de Paris, il habitait rue Saint-Benoît. Oui. Il s'est remarié, donc il y avait sa veuve, qui ne m'a jamais dit ça. Quatre ou cinq types sont arrivés avec des revolvers dans l'appartement. Et on dit: où est-il? On va le flinguer. Mm-hmm. Alors on lui dit: il est mort il y a 3 semaines.
Mm-hmm. Ça, vous l'avez appris depuis?
Ça, je l'ai appris il y a 15 jours. Mm-hmm. Et je sais aussi qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre lui en octobre, c'est-à-dire 3 mois après sa mort.
Et comment apprenez-vous ces choses maintenant? Par des témoins?
Par des livres. Même j'ai découvert un livre de monsieur Pierre Laffut, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui a été assez connu, et il a écrit son journal pendant la guerre. Et alors, c'est très intéressant, c'était un ami de mon père visiblement, mais qui était gaulliste. Ouais. Et qui parle d'une façon, il est désolé de voir l'évolution de mon père. Mais c'est pas du dénigrement, parce qu'on sent qu'il a beaucoup d'amitié, et en même temps, et c'est là que j'ai appris que mon père savait très bien qu'il faisait une bêtise, il lui dit. Et Laffut demande: mais pourquoi vous sortez pas de ce parti PPF? Il dit: mais non, parce que j'aurais l'air de retourner ma veste, enfin.
Quand on raconte une vie, même si vous dites qu'il reste ce mystère jusqu'au bout, est-ce que forcément, parce qu'on raconte, on ne donne pas une cohérence ou une explication?
Oui, le romancier tend toujours
à expliquer.
Oui, mais enfin, quand même là, il y a une incohérence, selon moi, que je n'arrive pas à... Mmh. Une faille, enfin, quelque chose. Mais évidemment, d'abord, quand on écrit un livre, on unit, enfin, il y a une continuité. On ne peut pas... Ou alors, ce serait des fragments, ce serait un poème, alors. Mmh. Mais si on fait un roman, une histoire... Ça commence par le début, ça se déroule jusqu'à la fin. Mais je crois pas, enfin, j'espère ne pas avoir forcé les...
Parce qu'en le lisant, moi, j'avais eu le sentiment que, enfin, qu'il y avait, comment dire, un certain regret de la séparation de vos parents et, l'idée que les choses auraient évolué autrement.
Ah oui, moi, sans... ma thèse, parce que j'ai comme une idée, s'il est tombé dans le fascisme, c'est à cause de la ruine de son mariage.
C'est ça. Donc il y a ça comme explication.
Oui, non, parce qu'il avait écrit un livre au moment de son mariage, s'appelait « De la personnalité », où il disait qu'une vie réussie, c'est celle qui unit, qui réalise l'unité de l'esprit. Alors lui, il n'a même pas été capable de réussir son mariage. Mm-hmm. Parce qu'il ne pouvait pas, je vous dis, les dettes, tout ça, il n'était pas... Et
parce que vous voyez quand même là l'échec.
Non seulement un échec personnel, mais un échec philosophique, c'est ça surtout. Ouais. Parce que c'était ça, son système du monde, c'était un philosophe, hein, c'était un élève de Bergson et de Braunschweig. Son système du monde s'est effondré parce qu'il a vu que lui-même était incapable de se conformer à ce qu'il pensait. Ouais. Et ça, je crois que ça, c'est clair. Et donc, il s'est mis à dériver dans la politique et à chercher une autre famille. Et il s'est trouvé qu'il s'est trouvé dans celle de Doriot. Mmh. Et en plus, il y avait, chez Doriot, c'était comme les communistes, c'est-à-dire qu'il y avait des horaires, des ordres du jour, des devoirs à faire, des uniformes. On était encadrés. Et comme lui était complètement perdu, parce qu'il a divorcé en 36, ils sont séparés, donc mon père, 36 et 6, ça fait 42 ans. Il s'est retrouvé dans un petit studio comme un étudiant, perdu, je pense. Enfin, moi, je ne l'ai pas connu à l'époque, mais j'étais trop jeune. Et donc, il s'est agrégé à une famille et il s'est trompé de famille, quoi.
Donc, vous avez quand même une explication.
Oui, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais j'en ai parlé beaucoup avec ma sœur, qui l'a mieux connue, qui était plus mûre à l'époque, et elle est assez d'accord.
Elle faisait la même hypothèse.
Oui. Et d'ailleurs, dans les carnets de ma mère, j'ai trouvé des choses assez pathétiques. Ils se revoient quand même une fois ou deux pour des histoires de famille, enfin, je ne sais pas. Et il lui a dit, parce qu'elle met entre guillemets, c'est à cause de vous, c'est à cause de notre séparation que je fais toutes ces bêtises. Enfin, pas ces bêtises, ce n'est pas comme ça qu'il parle, mais enfin, c'est...
Donc lui-même formule une...
Oui, il savait très bien.
Une hypothèse de ce genre.
Oui, enfin, c'est pas aussi clair que ça, évidemment.
Mais enfin, et de l'échec familial.
Oui, parce que c'est un échec vraiment de sa vision de l'esprit. C'était un philosophe. Hein. C'est pas seulement une chose sentimentale. C'est une chose tout ce qu'il avait... tous ses livres, même Molière, Le Gide, tout ça, c'était construit sur cette idée de la personnalité complète. Et lui, il n'était même pas capable de se conduire, enfin de se comporter.
Oui, parce qu'en plus, il a une théorie de la personnalité
que vous rapportez. Très forte. Là, il parle de Montaigne aussi, il parle de Rousseau, il parle de Nietzsche, et il y a une construction du moi, enfin du... Et tout ça s'effondre pour des questions secondaires, mais très importantes, l'argent, le sexe, enfin le...
Le livre, votre livre est aussi un livre très réussi parce qu'il y a d'autres personnages.
Ah oui, mais il y a tous les personnages qui...
Il y a de grands personnages très romanesques.
Oui, ben ils sont tous... Oui, bien sûr, oui.
Sa mère.
Il y a sa mère d'abord. J'ai très bien connu parce qu'elle est morte à 92 ans. Alors là, j'ai connu. Et c'était une femme. Alors là, c'est une sorte de. Comment dire de, j'appelle génitrix. Enfin, c'est une côté de. Celle qui a fondé le Vogue français, qui était veuve très jeune, qui n'a jamais voulu se remarier parce que. Elle était veuve en 1905 et elle n'a pas voulu se remarier pour se consacrer à son fils. Donc, elle l'a détruit, évidemment. C'est ses mères, là, comme ça, possessives. Ah oui.
Donc, autre explication, autre thèse.
Ah non, ça, c'est très important. Oui. Et en particulier, elle a... Non, c'est une femme d'autorité très intelligente. Moi, je lui dois beaucoup. C'est elle qui m'a elle m'a appris beaucoup de choses, mais elle était terrible, enfin autoritaire, ces femmes un peu, je sais pas que, enfin j'en parle là, mais je sais plus, terrible, enfin une énergie, même à 92 ans encore, elle était. Alors j'imagine quand elle était jeune, très belle, elle a eu des, enfin elle a refusé les aventures, il y avait. Le roi de Norvège, José Lacour, le Paul Doumer, enfin des gens comme ça. Elle dit non, pas question. Je crois qu'elle n'a pas beaucoup de vie privée, j'ai l'impression. Elle dominait, c'est une femme de pouvoir. Et donc son fils, elle l'a aidé, mais elle l'a détruit. Par exemple, elle l'a empêché de faire la guerre de 14. Elle a dit qu'il était mexicain, donc elle l'a fait exempter. Et je crois que ça a été tous ses camarades sont morts, évidemment. Enfin, et je crois que ça explique aussi qu'il choisit Doriot parce qu'il avait des uniformes. Oui. C'était pathétique. Au lieu de faire la guerre en 14, il s'est engagé en 40, il était trop vieux. On l'a envoyé à l'arrière, évidemment. Mais il y avait cette aspiration à servir la patrie, comme ça.
Et vous évoquez aussi sa longue dépendance financière.
Et oui, elle l'empêchait d'avoir un métier.
À l'égard des femmes, d'abord,
oui,
de sa mère, et puis de sa
mère l'empêchait d'avoir un métier. Elle lui payait tout, parce qu'elle avait une très très belle situation. Elle lui payait des voitures, en particulier des Bugatti. C'était un fou de Bugatti. Et ça coûtait des fortunes à l'époque. Parce que vous savez, quand il y avait une panne, c'était fait à la main, les pièces. Enfin, c'était ruineux. Donc, et comme lui était très, comme ça, très mexicain, il oubliait de mettre de l'eau. Il fallait mettre de l'eau à l'époque. Donc, de l'huile, il fallait. Donc, tout, le moteur était fichu. Ça coûtait des. Alors après, quand il s'est marié. C'est ma mère qui recevait les notes du garagiste. Alors, elle gagnait, mettons, je ne sais pas...
5 000 francs, je dis un chiffre, 5 000 francs par mois, et une note de 15 000 francs
de garage. Alors, la pauvre, aller voir le garagiste pour étaler les paiements. Enfin, vous voyez, c'était... Il n'a jamais eu de métier. Ça, c'est, il vivait de pige. Et vous savez que Gallimard ne paye pas tellement bien. Et donc, il était au comité de lecture de Gallimard pendant de 23. C'est Proust qui l'avait introduit là à l'NRF. Donc de 23 à sa mort, il était au comité de lecture de Gallimard et il écrivait à l'NRF tous les mois. Mais je crois que c'était très. J'ai trouvé des comptes d'ailleurs qu'il faisait. Il manquait toujours quelque chose. Enfin, c'était.
Donc vous insistez sur le mystère d'une vie, mystère de toute vie.
Oui.
Mais en même temps, dans le livre et dans les quelques mots que vous venez de dire, il y a une certaine cohérence d'un parcours. Vous retrouvez les rapports avec sa mère, les rapports avec sa femme.
Oui. Je vois que c'est un caractère faible, son drame. Il était une intelligence supérieure. Oui. Gide disait qu'il était tellement intelligent que... Avant qu'on ait posé la question, il vous faisait la réponse. Il dit ça dans son journal. Mais il avait un caractère qui n'était pas à la hauteur. Donc il était très faible. Donc faible vis-à-vis de sa mère, faible vis-à-vis de sa femme, faible vis-à-vis de Doriot, faible en tout. Quoi. Mm-hmm. Et c'est pour ça que. Et quand un homme public est faible, c'est une catastrophe toujours.
Je vous avais dit l'an dernier qu'il y avait un chapitre qui m'avait particulièrement frappé, alors qu'il ne touche moins à lui. À votre mère, et qui est le chapitre des relations de votre mère et de Paul Desjardins.
Ah oui.
C'est un chapitre assez extraordinaire.
Ah oui, ça c'était quelqu'un de oublié aujourd'hui, mais c'était. Je me souviens, écoutez, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que il avait fondé l'abbaye de Pontigny, enfin les entretiens de Pontigny. C'était un professeur à l'école normale de Sèvres, c'était un de ces grands humanistes de la fin du siècle, camarade de promotion de Bergson et de Jaurès et de Baudrillard. Et. Qui a refusé d'écrire pour se consacrer à son enseignement. Et lui aussi, il avait une façon de posséder et de détruire les jeunes filles qui étaient entre ses mains, si je puis dire. Et ma mère était son élève préférée. Et donc, j'ai une correspondance magnifique dont je cite beaucoup de passages. Et quand elle s'est mariée, à un moment, elle lui dit il faut vous marier, ma Liliane. Et puis quand elle s'est fiancée réellement, il était furieux et il s'est retiré. Et ça, il l'a rendu coupable de vouloir se marier, alors que lui avait 40 ans de plus. Enfin, vous voyez, c'était. Mais il était tellement impressionnant. Je me rappelle, j'étais à Pontigny pour la guerre. J'avais 10 ans quand il est mort.
Oui.
parce qu'on était réfugiés, on croyait que Paris allait être détruit, donc il est mort en mars 40, je m'appelle, et on m'a demandé, est-ce que tu veux voir le corps ? C'est une drôle d'idée de demander à un enfant, d'ailleurs, je trouve. Et il m'impressionnait tellement, je me rappelle très bien ma réponse, c'est une rare chose, je me rappelle de cette époque, j'ai dit, oui, mais je ne voudrais pas le déranger. Il avait une grande barbe, il était comme ça, et oui, ça vous dit, c'était vraiment quelqu'un de...
Donc vous l'avez connu jusqu'à l'âge de 10 ans.
Oui, enfin mais bon, vous... je ne savais pas qui c'était, évidemment. Oui, mais après, j'ai lu...
Il restait personnage important pour votre mère.
Il est resté important. Elle avait sa photo sur son bureau jusqu'à sa mort. C'était son père spirituel. Mais elle a gâché son mariage parce qu'elle elle se sentait coupable. Déjà, elle se sentait coupable naturelle de tout. Mais là, elle avait trahi son maître alors que lui-même... Je lui ai demandé, évidemment, elle avait 20 ans et lui 60, et normal qu'elle se marie quand même, mais... Non, c'est quelqu'un de terrible. Hein. Il y a eu des suicides de jeunes filles, je sais, à Pontigny, tellement il était fort, celles qui n'étaient pas capables de soutenir cette tension, puis il était très exigeant, on était toujours sur les hauteurs, les maximales, enfin, avec lui.
On a le sentiment aussi, en lisant votre livre, que la dette à l'égard de votre mère est considérable. Puis c'est les carnets que vous évoquiez, ces carnets chaque année, c'est la matière première.
Ah ben j'aurais pas pu écrire ce livre sans ça, parce que même la chronologie, là, oui. je sais tout ce qu'il faisait, enfin, mille choses qui étaient...
Et vous avez toujours su qu'il y avait ces carnets
qui... Oui, mais j'ai pas lu la suite, hein. Je me suis arrêté en 44.
Vous n'avez pas lu la suite ?
Non.
Ah oui, je crois que je vous avais dit l'an dernier.
J'ai 40 ans à lire encore.
J'aimerais bien connaître la. Je vous l'avais dit l'an dernier, j'aimerais bien le. Parce que. Bon, il y a votre père dans ce livre. Mais je dis, il y a un certain nombre. Bon, votre grand-mère, mais votre mère aussi est un personnage extraordinaire. Mais
j'ai peur, je suis sûr qu'elle elle doit parler de moi après quand j'ai commencé à publier. Ah. Et mes livres ont dû l'horrifier, je suis certain. Oui.
Donc vous n'avez pas regardé,
non, pas regardé. Non,
au-delà
non.
de 40
ans. Non, il faut encore que j'attende 50 ans.
Comment? Parce que, enfin, un lecteur comme moi a envie du livre.
Ah oui, de... oui, mais moi je peux pas là. Parce que...
A envie du livre de votre mère.
Oui, après bah oui, il faut le faire, mais peut-être un jour, je sais pas. Mais...
Personnage, elle aussi.
Ah, c'est un personnage extraordinaire. Elle aurait pu écrire, mais elle aussi avait cette religion de l'humilité qu'on avait à cette époque. Mm-hmm. Donc elle aurait pu faire une thèse, au moins, au lieu d'être professeur de lycée à Duruy, s'éreinter à corriger des copies toute la nuit, je me rappelle, des copies de français peu satisfaisantes, évidemment. Non, ça, je m'en
fous. Elle a eu une vocation de professeur de classe préparatoire.
Oui, bien sûr, mais c'est aussi par masochisme, par humilité, par refus de grimper un peu plus haut. Mm-hmm. Et ça devait irriter mon père, je pense. Je sais, quand ils allaient dans ces dîners mondains, enfin mondains, littéraires, elle ne parlait pas. Et quand, il y avait des scènes quand il revenait. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé ? Il y avait Céline, il y avait Malraux, il y avait tout ça, il fallait se mettre en valeur. Elle avait horreur de tout ça, je crois. Et d'ailleurs, après leur séparation, elle a coupé court avec tous ces gens-là. Et c'est ma grand-mère qui m'a fait connaître. Sinon, je n'aurais pas connu.
Mmh. Oui. Elle a aussi des amitiés politiques importantes. Et...
Oui, bien sûr. Il y a Drieux, il y a... Mais pas Brasillac, hein, ça c'est... Oui. Ça, j'étais content de voir que... qu'il n'était pas du tout d'accord. Et... Oui, puis des gens qui ont un peu disparu, enfin aujourd'hui, mais...
Et la rencontre avec Marguerite Duras aussi que vous évoquez.
Ah oui, c'était quand même une chose très belle quand même, parce que ma belle-mère, la seconde femme de mon père, était très amie de Marguerite Donadieu. Et en 40, quand mon père s'est remarié et s'est installé rue Saint-Benoît, chez Lippe, ces deux dames buvaient ensemble et Marguerite a dit à Betty, la belle-mère dit, cherche un appartement, je vais me marier, cherche un appartement. Et alors Betty lui dit, mais il y a juste un en dessous de chez nous. Donc Marie Donadieu avec Robert Antelme, enfin qui épouse Robert Antelme, s'installe au 5 rue Saint-Benoît, au troisième étage, mon père est au quatrième. Au début, Marie Duras était plutôt collabo, hein. Elle était du comité de censure du papier, celle qui répartissait les papiers. Et puis, elle a rencontré Dionis Mascolo, qui était communiste et résistant. Donc, elle est devenue communiste, d'un coup. Et le troisième était un centre de résistance. C'est là que François Mitterrand s'est réfugié, d'ailleurs, quand il s'est évadé. Mais pendant la guerre, mon père et Marguerite Duras se voyaient tout le temps. Et Marguerite Duras me disait, moi, j'étais amoureux de votre père, comme ça, avec ses yeux, comme ça, un peu extasiés. Et ils se voyaient tout le temps. Il y avait la même femme de ménage, qui s'appelait Marguerite. Et chacun savait exactement ce que faisait l'autre. Et Marguerite Duras a dit, c'est extraordinaire, cet épisode, elle a raconté dans l'Observateur, un jour, c'était en 43, je crois, ils se croisent dans l'escalier. Et Marguerite dit à Ramon, il ne faut plus nous voir, il ne faut plus nous téléphoner. Alors, il dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, parce que j'entre dans la résistance. C'est extraordinaire, ça prouve la confiance, hein, que quand même, il n'y avait pas un clivage comme ça, comme on croit qu'il y a aujourd'hui. Et elle ajoutait, il fut roi dans le silence et la discrétion. Alors là, ça aussi, ça m'a soulagé, parce qu'il aurait pu livrer à la Gestapo tout le troisième étage. Il y avait tout le monde passé là. Il savait très bien.
Et c'est la grande complexité de cette époque.
Oui, c'est... Bon, c'est vrai que Malraux voyait Drieux, que quand il venait à Paris, c'est pas... Non, aujourd'hui, c'est sous l'influence de Sartre, je crois. Après la guerre, il fait grand inquisiteur. Il a dit qu'il y avait les salauds, puis les justes. Oui. En fait, c'était plus... Et mon père a sauvé des juifs. Il a dit filer en zone libre. Il a sauvé des résistants. Je sais, Bordas, qui était le premier président du Centre Pompidou, qui était un jeune, un disciple, enfin, parce qu'il faisait du... Il avait dit comme ça, il a dit filer en zone libre, là, quand il y avait encore une zone libre. Mais enfin, ça n'empêche pas qu'il était, il écrivait quand même dans ses torchons de collabo, c'est ça.
Quelle autre vie échouée allez-vous écrire?
Oh, je sais pas, je crois que ça suffit comme ça. Peut-être il s'agit de trouver autre chose.
Mais vous venez de publier un Tolstoï.
Mais ça, c'est une vie réussie.
Oui, c'est pour ça que...
Oui, mais ça, c'est un vieil amour, ça.
Maintenant que vous avez fait ce livre-ci, il n'y a plus besoin d'écrire des vies échouées.
Non, c'est vrai, je crois que c'est vrai. Okay. Je suis plus libre. Je vais publier un roman l'an prochain, ce sera tout à fait autre chose.
C'est fini.
Pas... Oui, je crois que c'est...
Ce modèle-là,
c'est...
réglé.
J'aurais l'impression de faire du... La répétition, enfin, c'est fini, ça. Je crois que ça a bouclé, vraiment, ça.
Oui, on a le sentiment, en lisant ce livre, que c'est le livre que vous deviez écrire depuis très longtemps, enfin, qui était absolument indispensable.
Oui, ça, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'écris beaucoup plus facilement que les autres. Oui. Juste le temps d'écrire, mais ça m'a pris un ou deux ans, c'est tout. Alors qu'il y a ça paraît énorme, mais...
Et peut-être, oui... Parce que l'histoire était là.
Oui, l'histoire était là, mais j'ai pas eu de difficulté psychologique à l'écrire.
Mm-hmm. Sinon, cette crainte de trouver...
Oui, bien, la crainte, mais je voulais quand même... tant pis, j'ai besoin de faire crever cet abcès, enfin, qui était...
Qu'est-ce que vous allez faire, là, maintenant, comme roman? Vous faites un roman.
Je finis le roman, j'écris un dictionnaire à mots de Stendhal, parce que c'est moi.
Dictionnaire à mots de
Stendhal. Oui,
ah oui, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, il y a un très beau dictionnaire amoureux de l'Italie.
Oui, et de la Russie aussi.
De la Russie, oui, j'ai vu.
Aussi.
De la Russie, un dictionnaire amoureux.
Oui, j'ai fait.
Dans la même série.
Ah oui, c'est mon autre amour, c'est la Russie. Ah. Et puis Stendhal, qui est mon modèle, moi, littéraire, alors...
On peut se demander si tout récit d'une vie, enfin, finalement, n'élimine pas un certain nombre des ambiguïtés ou des mystères. Et
oui.
Vous insistez beaucoup pour qu'il y ait quand même le mystère, mais je me demande s'il reste le mystère au bout du compte.
Ah oui, là, dans ce cas-là, il reste quand même.
Il reste le mystère d'une liberté humaine à un moment donné.
Oui, mais quand même, rien ne peut expliquer qu'un homme de cette envergure tombe aussi bas. C'est quand même...
Qu'il n'y ait pas eu de protection ou de...
Oui, il n'y a eu qu'un... Ça me paraît quand même, aller à Weimar en 41, invité par Goebbels, c'est dire après que c'était un homme merveilleux, c'est quand même extravagant. C'est... On savait quand même, oui. On ne savait pas tout, on ne savait pas les camps d'extermination, évidemment, mais enfin, on savait même que les Juifs partaient quand même, étaient parqués à Drancy, et que Max Jacob était un ami de Betty. Il est mort, lui, à Drancy. Non, on savait quand même beaucoup de choses. On savait très bien que Mein Kampf, ça avait été publié. On savait la politique de Hitler. On savait que c'était pas... Et ce qui est très curieux, c'est que je raconte aussi ça. Quand on était à Pontigny en 40, et ma sœur qui m'a rappelé, qui se rappelait, elle, qui avait... Il est arrivé en mars 40 dans une vieille traction avec deux Juifs allemands. Et il a dit en arrivant qu'il avait dit « Voilà ce que M. Hitler fait de ces gens. » Donc il savait très bien, et en même temps, là, à ce moment-là, il était contre Hitler, enfin, s'il peut dire.
Oui. Oui, mais pour accepter la collaboration, il n'y avait pas que ce motif-là, il y a beaucoup de collaborations.
Oui, il y avait la peur du communisme, on l'a dit, mais...
Oui, ou la volonté d'un régime d'ordre.
Oui, mais c'est pour ça que en 37, d'accord, oui. Doriot voulait le mettre de l'ordre, un peu comme ça. Mais en 40, il y avait l'occupant, quand même, la botte allemande, moi, je me rappelle, les inscriptions en allemand, c'était horrible. Moi-même, enfant, on souffrait.
Oui, il fallait que, comment dire, l'anti-germanisme ne soit pas insurmontable. Ou il fallait aussi que l'antisémitisme soit, enfin, aussi puisse être admis d'une certaine façon. Il n'y avait pas d'inacceptable, même si c'était pas quelque chose de déterminant.
On ne voulait pas savoir, peut-être aussi. Oui. On ne voulait pas savoir très bien ce qui se passait. Mais ça, c'est coupable. Je vois, un intellectuel est plus responsable que les autres. Mm-hmm. Un intellectuel, en tant que conscience, doit être au courant avant de s'engager, doit réfléchir. Mm-hmm. Mais là, je suis très sévère pour Sartre aussi, qui lui aussi a été très coupable, on l'a vu tout autant, quand il revient de Russie, dur sur 52, du vivant de Staline, et qui dit « c'est le pays où l'esprit critique est le plus libre », c'est aussi grave, je trouve, que de faire l'éloge de Goebbels. Parce que lui avait un prestige genre planétaire et il accrédite de son prestige, quand même, le goulag.
Oui. Oui, d'un autre côté, on a beaucoup de témoignages, pas de la part de Sartre, mais enfin, il y a beaucoup de témoignages d'anciens défenseurs du communisme et de l'Union soviétique. Qui sont revenus dans leur mémoire sur cette période.
Oui.
On en a peu de collaborateurs.
Oui, mais ils sont tous morts.
Hein. Ils ne sont pas tous morts sur le moment.
Et puis je crois que mon père est le seul qui ait eu une descendance, parce que ni Brasillach, ni Drieu, ni Jouandeau, ni Bonnard, ni...
Oui, ils n'ont pas eu de... Oui.
Ils n'ont pas eu d'enfants. Donc ça.
Oui, enfin, il y a eu beaucoup de collaborateurs. Vous en citez quelques-uns, il y en a quand même eu beaucoup d'autres, et en fait, on a peu de mémoire.
Oui, mais les principaux sont éteints.
Principaux
avec
sont
eux.
Oui. Il y a pas de tentative d'explication de la part de. Enfin, il y a un silence.
Non, il y a ceux qui sont convaincus, qui sont restés fascistes, il y en a encore. Qui n'ont rien compris, qui n'ont pas voulu. Et puis les autres, non, il y a très peu. Moi, j'ai cherché, évidemment, c'était trop tard, ils étaient tous morts. J'ai pas trouvé de témoins, parce que j'ai trop attendu.
Vous n'avez pas trouvé de témoins.
Mais j'aurais pas pu faire avant, justement, c'était trop proche, mais il n'y avait plus personne. Si j'ai trouvé Saint-Tin, un vieux monsieur, qui m'a dit, qui lui a resté dans ses convictions, mais enfin, c'était très faible comme témoignage, je l'avais connu très jeune, mais les témoins sont tous... Bon, évidemment, ils sont morts maintenant.
Donc après, les, la publication du livre, ce qui vous a été apporté n'a jamais été apporté par des témoins.
Ah non, non, c'est des gens qui ont trouvé ça sur Internet ou bien chez eux, des livres,
Votre père était né en quelle année ?
Pardon ?
Il était né en quelle année ?
94, il est mort à 50 ans juste. Ce qui est très dommage pour un critique comme ça, je veux dire, parce qu'il avait toute une œuvre à faire. Il voulait écrire un livre sur Colette, il voulait écrire. Enfin, il y avait tout un programme. Et ce très frappant, c'est que pendant 10 ans, il n'a fait que de la politique. Mm-hmm. Entre 34 et 42, à peu près, enfin, 8 ans. Donc des meetings, des pétitions, des choses stupides comme ça. Et puis en 42, quand il s'est senti sans doute mourir, je crois qu'il y a un instinct, il a écrit 4 livres d'un coup, le Balzac, le Proust, l'itinéraire français et le premier tome du Barrès. Oui. On sent qu'il y avait une urgence là. Et... Oui. Ça, c'était un manifeste anti-vichiste. Oui, bien sûr, ça a une valeur de manifeste. De même qu'il a fait l'éloge de Bergson. Vous savez, quand il est mort en 41, les Allemands avaient interdit qu'on fasse son éloge. Et il a fait 3 éloges. Un à l'ANRF et 2 dans la Légion d'Orient même. Mm. Disons que c'était un grande pensée qu'il ne fallait pas oublier. Il a reçu une lettre d'injure. D'ailleurs, c'est là qu'il a rompu avec Céline, qu'il a dit « Comment tu défends les Youpins maintenant ?» Il était un peu braque, Céline, hein, ça, c'est toute chose. Il n'est pas... Il est à moitié responsable, je pense.
Oui, vous avez vu la publication du volume de sa correspondance.
Oui, c'est pénible, je trouve. C'est très pénible. C'est vraiment... Mais c'est une fixation... C'est pathologique, presque. Je sais pas si... Mais oui, alors, et le Proust, en 1943, la gloire de Proust, c'est quand même... C'est le contraire de ce qui était recommandé à cette époque.
Oui, mais on trouverait le même genre de contradiction chez un certain nombre d'autres.
Oui, oui, oui. Mais à propos de Proust, ça vous intéressera, parce que dans la version poche...
Oui, je vais regarder l'édition de poche.
Il y a un chercheur, M. Luc Fraisse, vous connaissez peut-être, de Strasbourg. Parce que mon père avait écrit un roman de jeunesse, Philippe Sauveur, dont je parle. Et ce roman inédit... C'était un roman sur l'homosexualité. C'est très curieux parce qu'écrire en 1915.
Vous le citez.
Oui, je le cite, abondamment parce que ce qui me fait beaucoup d'interrogations d'ailleurs sur la nature de mon père. Parce qu'écrire un roman sur ce sujet, et il l'a lu à Proust, qui était très lié, et Proust l'a emporté chez lui. Et mon père soutenait la thèse que c'était un vice bourgeois. C'est la thèse. Et Proust lui dit mon pauvre ami, vous vous trompez complètement parce que mon cocher, mon giletier, Donc, il a rembarré il a mis dans un tiroir son manuscrit, mais qui est très intéressant, que j'ai lu qu'il y a des fragments, il n'est pas complet, il en manque, mais c'est très passionnant. Et M. Fraisse, qui est un professeur à Strasbourg, est venu le lire chez moi, et il a établi, il y a une communication qui va apparaître dans l'Histoire littéraire de la France, la revue d'Histoire littéraire de la France, que Proust aurait, pas piqué, mais enfin, il serait inspiré très près d'une page de ce roman, pour l'apparition de à Balbec là
d'Albertine
Saint-Loup
de Saint-Loup
quand il arrive là avec les yeux de couleur de mer et les cheveux couleur de blé, ben ça c'est dans Philippe Sauveur, c'est la meilleure page. Et chronologiquement il y a 2 ans d'intervalle entre les choses de mon père, et Proust l'avait emporté chez lui et c'est amusant ça. Ça renouvelle les études proustiennes, vous voyez.
Donc il y a un plagiat de Proust, là.
Non, parce que c'est pas... Proust ne plagie pas. Il phagocyte, il s'approprie. Oui. C'est beaucoup plus beau chez Proust, évidemment.
Il se nourrit.
Voilà, mais c'est intéressant de voir qu'il y a... ce rapport.
Oui. Effectivement, dans une certaine forme d'homosexualité, bon teint, pas celle
Oui. Non, mais Philippe Sauveur est un roman très curieux, parce que c'est pas mal.
Oui, vous en faites beaucoup de cas.
Mais c'est naïf, parce que mon père avait 22 ans. Mais c'est très intéressant, et vu le sujet, parce que à l'époque, c'était vraiment un sujet très réservé, enfin très... Il se lançait dans ces... J'ai 400 pages comme ça.
D'une certaine façon, écrire la vie de votre père, c'est aussi une déclaration d'amour.
Ah oui, bien sûr. Ben, c'est le père. Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours fasciné par cette figure, mais à cause de cette double
C'est un monument d'amour.
Oui, oui, si on veut, oui.
Comme tout livre.
Oui.
Pardon ?
Non, je crois.
Pourquoi Ramon ?
Ben, c'est son nom.
Ah, pourquoi mon fils s'appelle Ramon ?
Ben, parce que au Mexique, les fils aînés portent toujours le même prénom. C'est une tradition. Mon arrière-grand-père s'appelait Ramon, mon grand-père, mon père. Moi, je suis une fâcheuse exception, mais ce n'est pas ma faute. J'aurais dû m'appeler Ramon normalement. Et j'ai voulu, en appelant mon fils Ramon,
retrouver la tradition.
Sa mexicanitude.
Oui.
Voilà, je trouve que c'est comme en Russie, le fils aîné a toujours le même prénom.
C'est retrouver l'histoire.
C'est retrouver l'histoire. Sauf que maintenant c'est Ramon, avant c'était Ramon.
Oui.
Et les deux prononciations sont possibles selon qu'on accentue le côté espagnol ou le côté français.
Bien, bah écoutez, je crois qu'on va vous remercier de cette belle contribution.
Merci à vous.